Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous-nous Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. On souligne quotidiennement dans notre émission le poids des inégalités en matière de santé. Et s'il existe un secteur où ce fossé est évident, c'est bien celui des équipements médicaux. Alors aujourd'hui, au moment où la justice se penche sur le scandale de l'obsolescence programmée dans le secteur de la téléphonie mobile, nous posons une question. Est-ce que cette mise au rebut de matériel de façon délibérée concerne également le secteur de la santé? Quiconque fréquente l'hôpital en France peut observer la technicité des équipements, échographie, radiothérapie, même chose en médecine de ville, chez le chirurgien dentiste ou l'ophtalmologiste, du matériel moderne, de la haute technologie et forcément un investissement à la hauteur de ses performances techniques. Les progrès de ces dernières années en matière d'imagerie médicale illustrent parfaitement cette course à la haute technicité. Et cette excellence pèse lourd dans les budgets des machines remplacées. Alors que deviennent les scanners et blocs opératoires mis au rebut? Comment s'organise la maintenance? Qui décide de changer le matériel? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre pendant cette émission. Et avec nous en studio, Arnaud Ferron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable biomédical au sein de l'association La Chaîne de l'Espoir. Juste pour expliquer brièvement à nos auditeurs, définir l'action de La Chaîne de l'Espoir, c'est quoi?
Alors, La Chaîne de l'Espoir est une ONG donc créée en 1994 et qui a pour but d'intervenir dans le monde entier, sur une trentaine de pays, pour opérer des enfants atteints de malformations cardiaques initialement, mais pas que. Et puis, un volet éducation pour permettre aux enfants d'accéder à la santé et à l'éducation.
Alors, on vous retrouve. On retrouve en ligne de Toulouse, Philibert Hermine, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes bénévole spécialiste stérilisation et hygiène au sein de la chaîne de l'Espoir également, actuellement dans les studios de France Bleu Occitanie, que l'on remercie pour leur accueil. Tout à l'heure, nous donnerons la parole à l'un des fournisseurs de matériel médical, Francesco Palazzo, directeur de la société Mindray, spécialité médicale particulièrement tributaire de cette technologie, c'est bien la radiologie. Nous serons en ligne avec le professeur Philippe Soyer, chef de l'unité de radiologie et diagnostic de l'hôpital Cochin à Paris. Et nous donnerons également la parole au professeur Mamadou Diarra, cardiologue, directeur de l'hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg, à Bamako, au Mali. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète.
RFI.
C'est donc une question à la frontière de plusieurs domaines que nous posons aujourd'hui dans Priorité Santé, médicale bien sûr, mais aussi technique, économique, environnementale, pour donc essayer de savoir si la santé, elle aussi, est concernée par ce que l'on peut appeler comme la culture du jetable. Arnaud Ferron, pour commencer les présentations, vous êtes responsable biomédical. Quel est votre rôle précis au sein de votre ONG, de votre association?
Alors, mon rôle précis, il y a plusieurs cartes. Le rôle d'un technicien biomédical à la chaîne de l'espoir, c'est tout d'abord l'acquisition des équipements hospitaliers, ensuite la mise en service sur les terrains d'opération. Avant mise en service, il y a bien entendu contrôle dans notre atelier à Paris, mise en service sur les pays concernés, et puis formation des équipements, parce qu'on ne laisse pas les appareils dans la nature comme ça, une fois mis en place. Et puis toute la partie maintenance, suivi, entretien, formation des techniciens. Voilà, c'est un peu toutes ces facettes qu'a le technicien biomédical à la chaîne de l'espoir.
Et quand on est responsable biomédical en milieu hospitalier, est-ce que à peu près la marge de manœuvre, le terrain d'action est le même?
Oui, l'entretien à la chaîne de l'espoir est le même que pour un hôpital français, un hôpital national. On y attache une grande importance. Les équipements qui sont récupérés par notre association sont d'abord triés et contrôlés selon les termes constructeurs. On attache vraiment un point d'orgue à ce point-là. Les équipements que l'on envoie sont contrôlés et dans des conditions de fonctionnement optimales.
Donc on l'a compris, Arnaud Ferron, il vous arrive d'acheter et d'envoyer dans différentes régions du monde du matériel, donc pour la chaîne de l'espoir, d'acheter du matériel d'occasion.
Tout à fait. Selon les projets, bien sûr, on achète, si le projet ne le permet pas, d'acheter du neuf, on achète d'équipements reconditionnés.
Alors, il est acheté auprès de qui? Auprès d'hôpitaux ou auprès de marques qui ont récupéré ces appareils?
Là encore, la question prend tout son sens. Ça dépend des opportunités que l'on a. des sociétés peuvent nous faire don d'équipements de démonstration ou bien nous les céder à tarifs vraiment très très avantageux, vraiment non concurrentiels. C'est très variable. On a des opportunités de dons vraiment gratuits pour nous, des cliniques, des hôpitaux français qui réforment leurs équipements. Voilà, on fait marcher notre réseau et selon les projets, on achète du neuf, du reconditionné. C'est vraiment selon les projets.
Et les explications, Arnaud Ferron, qui vous sont données pour ces structures de santé ou ces marques, pourquoi se séparent-elles de ce matériel, on l'a compris, qui est donc encore utilisable?
Tout à fait. Alors, les établissements de santé se défendent leurs équipements parce qu'en France, je le sais bien parce que j'ai pratiqué un établissement de santé pendant plus de 10 ans avant d'intégrer la chaîne de l'espoir. Les équipements de santé se défendent leurs équipements. Ils sont soumis à ce qu'on appelle une durée d'amortissement variable selon les établissements de santé. 5 ans, 7 ans, selon, voire 10 ans pour certains équipements. Et au bout de ce certain nombre d'années, les équipements sont réformés. C'est-à-dire qu'ils sont mis à la benne. Donc nous, petite ONG, on fait du porte-à-porte, on fait marcher notre réseau et on récupère ce qui colle à nos projets. On va pas récupérer tout parce qu'on ne veut pas tout récupérer. Néanmoins, on récupère ce qui va apporter à nos projets, ce qui est important, ce qui est encore en bon état de fonctionnement, ce qui peut encore durer des années, parce qu'on sait très bien qu'au bout de 5 ans, l'équipement n'est pas obsolète. Et on s'assure aussi de la pérennité des accessoires, des consommables dans la durée. Donc voilà, c'est tous ces facteurs que l'on essaie de maîtriser pour redéployer après sur le terrain.
Alors en ligne de Toulouse, on vous retrouve, hein, Philibert Hermine, pour bien comprendre la maintenance, de quoi s'agit-il? Vous intervenez sur ces questions, sur quel type de matériel?
Moi, je suis plus spécialisé dans la stérilisation. Effectivement, comme Arnaud vient de le dire, le matériel récupéré en France et envoyé est bien conditionné. Mais nous avons aussi un grand nombre de matériels sur place dans les établissements, que ce soit cliniques ou hôpitaux à l'étranger, qui ne sont pas entretenus. Donc, lors d'une mission, mon rôle est d'aller quelques jours sur place avant la mission, avant le début de la mission, pour réviser tout ce matériel et reconditionner tout le circuit de stérilisation.
Donc si on comprend bien, il y a tout le volet technique, mécanique, mais il y a aussi les besoins pour que ce matériel puisse entrer par exemple en bloc opératoire, qui est toutes les conditions requises au niveau de la sécurité pour éviter bien sûr les transmissions de bactéries ou de germes.
Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le circuit de stérilisation. Vous avez un circuit propre et un circuit sale. Donc il n'y a pas de déversement. Donc à chaque étape de ce circuit, il y a des contrôles, hein, et ça, on est tenu à mettre en place tous ces postes qui servent à contrôler le matériel qui va être stérilisé et qui par la suite sera utilisé dans les interventions chirurgicales.
Merci beaucoup Philibert Hermine, toujours en ligne de Toulouse. Vous restez avec nous, hein. On va vous retrouver dans quelques secondes dans votre élément, Arnaud Ferron. Avec ce reportage de Philippine Lebret dans des locaux que vous connaissez bien, ceux du pôle achat logistique biomédical de la chaîne de l'Espoir, c'est juste à côté de Paris, hein, sur place. Il y a du matériel stocké, prêt pour l'expédition et l'atelier biomédical. Et Arnaud Ferron, on vous retrouve donc entouré par vos machines.
Donc là, typiquement, on se retrouve face à une machine de réanimation, un respirateur de réanimation. Voilà, on va venir vérifier le fonctionnement de la machine.
Qui sert à quoi donc cette machine?
C'est une machine qui sert à suppléer la ventilation du patient en fait. Lorsque le patient est endormi, dans le coma, et que la ventilation n'est pas spontanée.
Qui ne peut pas respirer tout seul.
Tout à fait. On vient intuber le patient, donc au bloc opératoire, et la machine de réanimation prend le relais. J'ai pas d'air. Pour contrôler nos machines, on a donc un compresseur d'air qui génère donc l'oxygène, auquel on va raccorder notre machine d'anesthésie ou de réanimation pour pouvoir la contrôler. Voilà, et ce petit ballon simule le poumon en fait du patient.
Donc du coup, là, pour tester la machine, vous êtes en train de lui envoyer de l'oxygène, c'est ça?
Tout à fait. On vient générer l'oxygène et on va s'assurer à l'aide de nos testeurs que la fréquence que l'on envoie, que le volume qu'on envoie correspond bien aux valeurs mesurées sur l'appareil. On va faire un test de sécurité électrique derrière, voir... N'ayez pas peur, c'est rien. Vérifier que tout est fonctionnel, qu'il n'y a pas de risque pour le patient, ni pour l'utilisateur. Et on sera serein sur le fait que la machine a de beaux jours devant elle, si, une fois encore, elle est entretenue en maintenance sur le terrain. C'est qu'un autre débat. Là, je vais prendre en charge cette machine, donc techniquement parlant, c'est une machine avec un écran sur lequel on vient appuyer comme une tablette et on vient lui donner des instructions. C'est-à-dire que je vais modifier la pression, le volume, la fréquence, etc. Et là, la touche, la dalle tactile, donc l'écran, ne répond pas à l'endroit précis où je voudrais taper. Donc voilà, je vais devoir démonter, nettoyer toute la dalle tactile et remonter, vérifier si c'est amélioré ou pas le problème.
Donc là, on a dévissé l'écran.
Voilà, donc là, l'écran est désolidarisé de sa partie principale. Donc maintenant, le but du jeu consiste à ouvrir l'écran. C'est un métier où il faut être assez rigoureux dans le démontage. Il y a des procédures de démontage, de remontage, de contrôle. C'est toujours la blague des techniciens, c'est que quand on remonte un équipement et qu'il nous reste une vis, il faut redémonter pour savoir où elle va. On ne peut pas se permettre d'avoir une vis qui traîne.
Cet équipement-là, il vient d'où, vous savez ?
Il existe ce qu'on appelle des brokers. Ce sont des sociétés qui réalisent des opérations de démontage de cliniques, d'hôpitaux. Donc ils achètent des lots complets d'équipements qu'ils revendent à des prix défiant toute concurrence. Donc pour nous, en tant qu'ONG, c'est intéressant parce qu'on peut faire des fois de très belles opérations, comme c'était le cas pour ces respirateurs de réanimation, qui sont des équipements qui ont 2-3 ans et qu'on a à des prix vraiment défiant toute concurrence. Alors ça, c'est un équipement qui devrait valoir entre 15 et 20 000 euros et il a été cédé à la chaîne de l'espoir à 6 000 euros.
Comment ça se fait que des équipements qui sont considérés comme obsolètes par des hôpitaux français puissent encore être utilisés sur des terrains d'opération à l'étranger ?
Le mot obsolète est à prendre avec précaution. Je prends toujours l'exemple du poussin, c'est le dispositif médical le plus basique. C'est un système de perfusion qui permet d'injecter un produit en un temps donné à un patient. Le pousse-seringue, on sait très bien qu'au bout de 5 ans, en France, il est réformé, mais il a encore 10, 15 ans devant lui s'il maintenant s'est assuré un contrôle régulier, annuel. Voilà, c'est pas parce que c'est réformé dans un hôpital que ce n'est plus fonctionnel pour une utilisation ultérieure.
Est-ce qu'aussi cette question de l'obsolescence ou non, ça pose problème ou ça pose question auprès des bénéficiaires et notamment du personnel médical qui peut se demander pourquoi on lui envoie du matériel qui n'est plus utilisé et considéré comme plus utilisable par les hôpitaux français.
Oui, tout à fait. On rencontre souvent ce genre de propos et de remarques de la part de nos bénéficiaires, enfin de nos collègues, bénéficiaires, j'aime pas trop le mot, mais de nos collègues, que l'on aide bien volontiers avec des équipements de seconde main et qui nous disent « Oui, mais attention, vous avez mis ça, mais regardez, on nous a déjà donné tel équipement, et 6 mois après, ça ne marche plus. » On essaie au mieux, le plus possible, d'avoir des enveloppes, de créer des budgets et d'acheter du neuf. Parce que voilà, on n'a pas envie de tomber dans le schéma du « Tenez, je vous donne cet appareil, il a 10 ans, et bon, advienne que pourra, si l'équipement dure 10 ans, tant mieux, s'il dure 6 mois, bah tant pis. »
Donc là, vous avez enlevé le boîtier extérieur de l'écran.
Là, on arrive sur la dalle tactile. Donc là, c'est une des parties les plus sensibles de l'appareil.
Vous savez déjà où il va partir, cet appareil ?
Alors, cet appareil va partir au Mali, le centre de chirurgie pédiatrique à Bamako.
Reportage signé Philippine Lebret, Arnaud Ferron, hein, on vous retrouve. Ce matériel qui est préparé pour l'expédition, est-ce qu'il était vraiment dépassé ? Est-ce qu'il était vraiment digne d'être mis au rebut ?
À mon sens, non. En tant que technicien, je vais vous dire non, parce que l'âme d'un technicien, c'est de réparer, d'assurer de longues vies aux équipements. Non, il n'était pas obsolète. Pour moi, il n'était pas obsolète. Un équipement bien entretenu, bien cocooné, peut durer de nombreuses années, bien sûr. Mais...
Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme comptable d'amortissement, hein, pour justement qu'une installation soit rentabilisée, on n'en a plus besoin, donc on la change. On ne parle pas là d'usage, on parle d'amortissement, c'est une logique comptable. Il y a une question qui se pose, ça veut dire qu'on remplace certains appareils finalement pour que l'année suivante on ait un budget équivalent. Ça peut poser question quand on parle de santé quand même.
C'est un peu ça, malheureusement la santé est liée à la dureté économique. Bon là, je vais pas dépasser mon domaine de compétence, mais oui, j'ai vécu ça à l'hôpital aussi. Et on a des budgets. On établit chaque année ce qu'on appelle un plan d'équipement. On recense les besoins des services, etc. Donc un budget est alloué. Et si le budget n'est pas dépensé, eh bien oui, il va fondre l'année suivante. Oui.
Ce que vous constatez aussi sur le terrain en travaillant pour la chaîne de l'espoir, c'est qu'en matière d'équipement, peut-être même encore plus qu'en matière de traitement médical, on a deux mondes distincts entre nos systèmes super équipés, performants, et pour d'autres régions les moins favorisées, un sous-équipement chronique. Et cette question qui se posait à certains pays qui se demandent finalement pourquoi nous recevons ce que le Nord ne veut plus. Est-ce que c'est une question des interrogations que vous rencontrez justement en allant apporter ce matériel sur le terrain ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas un recul énorme à la chaîne de l'espoir, ça fait que 3 ans que j'y suis. Mais je rencontre de plus en plus sur le terrain des chirurgiens, des praticiens de plus en plus exigeants, qui sont formés en France, habitués aux technologies de chez nous, de France, avec des équipements de pointe. Et quand on arrive en proposant des équipements de seconde main, un petit peu vieillissants, on sent qu'on n'est pas forcément pas bien accueilli, c'est pas vrai, mais voilà, on sent que ça tique un petit peu et qu'on se dit, ils nous font gentiment remarquer que non, ils veulent aussi du nouveau et du technologiquement abouti et avancé.
On vous a entendu tout à l'heure dans votre atelier, pour parler clairement, si ce matériel, vous ne lui aviez pas donné une deuxième vie, quelle aurait été sa destination, Arnaud Ferron ? C'est un terme un peu trivial, c'était la décharge ?
C'était la décharge, probablement, oui.
Et justement, quand vous remettez de la vie, on entend les bip-bip, on a l'impression d'être un petit peu dans un film de science-fiction. On entend ces machines qui reprennent corps. Pensez que tout ça pourrait terminer finalement dans une décharge. Il doit y avoir quelque chose d'étonnant pour un technicien, parce qu'on est quand même face à des objets de haute technicité.
Tout à fait. Non, c'est une grande frustration, de savoir que ça peut partir à la poubelle. Mais on rencontre aussi ça en Afrique, quand on va sur le terrain, en Afrique ou ailleurs, on est présent dans 30 pays. On ouvre des portes des fois et on trouve des cavernes d'Ali Baba avec des équipements j'appelle ça des tonnes de métal inutiles et inertes, qui encombrent, qui ont été donnés bien généreusement par des donateurs français, européens, qui arrivent en Afrique, qui sont obsolètes, il n'y a pas de maintenance possible, il n'y a plus de pièces détachées, plus d'accessoires. Et voilà, on a fait un don, la personne a fait un don, elle était contente sur le coup, mais le bénéficiaire se retrouve, la personne qui reçoit le don se retrouve avec un tas de métal sans aucune utilité.
Parce qu'il manque l'humain derrière.
Parce qu'il manque l'humain derrière pour être formé, les pièces, etc. Et ça, pour nous qui allons en mission, c'est une grande frustration, oui.
Alors, autre savoir-faire, le vôtre, Philibert Hermine, la stérilisation, la remise en état du matériel pour qu'elle arrive directement dans le bloc opératoire. Vous êtes retraité aujourd'hui, toujours actif, on l'a bien compris. Quel regard portez-vous, justement, avec votre recul de retraité, quel regard portez-vous sur l'évolution technologique ? Est-ce que la maintenance d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier ? Est-ce que votre savoir-faire a changé ?
Disons, le savoir-faire, bien sûr, change puisque le matériel évolue. Mais pour en revenir au transfert de matériel nouveau dont vous parlez par rapport aux pays qui n'en ont pas vraiment la technicité, je veux dire que effectivement, les chirurgiens qui sont dans ces pays-là ont fait leur formation en Europe sur du matériel assez pointu. Et vous l'avez dit, c'est d'une haute technicité. Ceci dit, il n'y a pas que ces chirurgiens-là, parce que derrière tout ça, il faut aussi former les techniciens qui sont sur place. Donc il y a tout un travail à faire sur, bien sûr, l'envoi du matériel neuf, la formation des techniciens locaux sur du matériel neuf, et le fait que ces techniciens, pour faire former un technicien, c'est pas un an, ça demande des fois 2-3 ans. Donc c'est vrai que... c'est assez difficile à dire, on va envoyer un matériel neuf sur place, ce matériel va fonctionner pendant au moins 6 mois, 8 mois, et si jamais il y a un problème, il faut que le technicien sur place puisse pouvoir réparer ce matériel. Donc le problème de formation derrière l'envoi de matériel neuf est obligatoire. Pour répondre à votre question concernant le matériel que je découvre sur place, bien sûr, c'est un matériel qui est envoyé par différents organismes de médicaux, et ce matériel est souvent obsolète. Et c'est à nous de réactualiser la fonctionnalité de ce matériel pour mettre, entre guillemets, ce matériel aux normes. Mais ce qui est important, une fois que ce matériel est fonctionnel, toutes les stérilisations, tout le matériel qui sera stérilisé dans cet appareil sera aux normes européennes. Donc là-dessus,
c'est pas de la sous-qualité. On l'a bien compris.
C'est pas de la sous-qualité.
On va maintenant donner la parole à un fournisseur d'équipement en ligne avec nous d'Allemagne. Vous trouvez en ce moment près de Francfort, Francesco Palazzo. Bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde.
Vous êtes directeur général de la filiale française de la société Mindray. Vous fabriquez du matériel médical. Quel type de matériel ?
Donc nous fabriquons du matériel médical qui est présent dans les blocs dans les blocs d'opération et dans les anesthésies, en fait dans les réanimations aussi. Donc on a tout ce qui est inclus le monitorage et on fabrique des ventilateurs d'anesthésie et des réanimations.
Francesco Palazzo, est-ce qu'aujourd'hui quand vous vendez un équipement, par exemple un hôpital, une clinique, un centre médical, vous avez une idée de sa durée de vie ?
Oui, certainement. On a les cycles en fait de renouvellement, ils se sont énormément raccourcis au fil du temps. D'un point de vue, je dirais, obsolescence entre guillemets technique ou clinique, plutôt que programmée, bien évidemment. Et aujourd'hui, je pense à un appareil qui est vendu en 2017, il a d'un point de vue, encore une fois, clinique, une espérance de vie de 6, 7, 8 ans en moyenne.
Alors, d'où est prise cette décision d'arrêter de commercialiser l'appareil ? Pourquoi décide-t-on ? Comment décidez-vous de retirer un produit de la vente pour le remplacer, Francesco Palazzo ?
En fait, bon, il y a, comme M. Ferrand l'évoquait en tout début d'émission, il y a une notion économique, donc effectivement c'est la durée de l'amortissement. À vrai dire, les cycles de vente de nos appareils sont plus longs que la durée d'amortissement. Donc nous avons par exemple, nous commercialisons encore une gamme de monitorage qui a été lancée en 2005. Donc au bout de 12 ans, les appareils sont toujours disponibles. Et surtout, ils sont disponibles, même les pièces détachées, sont disponibles pendant 7 jusqu'à 10 ans après la fin de la commercialisation. Donc ce n'est pas effectivement la fin de la commercialisation qui décrète la fin de la maintenance. C'est bien le contraire, même si l'appareil n'est plus vendu, il est toujours maintenu.
Et est-ce qu'il existe différentes gammes de produits en fonction des pays dans lesquels ils seront commercialisés ?
En fait, ça c'est un peu dans la logique classique du commerce. C'est vrai que certains pays, et je ne parle pas forcément des pays d'Afrique ou des pays en voie de développement, je parle plutôt même en Europe, on a des différents produits qui sont commercialisés dans différents pays, parce que les segments sont différents, parce que la maturité aussi des marchés est différente, et donc, en revanche, toute la gamme de produits, elle est disponible dans tous les pays.
Et que deviennent vos machines, Francesco Palazzo, quand on décide de les remplacer ? Est-ce que vous reprenez certains équipements, et vous en faites quoi ?
Oui, on a des opérations de reprise d'équipements, pas tous les équipements, mais les équipements qui ont un potentiel, qui sont en bon état. On a la capacité de les réformer et on a la possibilité aussi de les éventuellement revendre. J'insiste, pas qu'en Afrique, mais aussi sur le marché français, par exemple, sur d'autres segments. Juste pour vous donner une idée, parfois, par exemple, les segments vétérinaires ne demandent pas une technologie extrêmement pointue ou premium. Et donc, ça nous permet aussi d'arriver sur des clients qui auront des besoins particuliers.
Merci beaucoup, Francesco Palazzo, d'avoir été en ligne avec nous d'Allemagne. Je rappelle que vous êtes directeur général de la filiale française de la société Mindray. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On vous retrouve dans nos studios, Arnaud Ferron, responsable médical de l'association La Chaîne de l'Espoir. On parle d'obsolescence programmée, donc avec un point d'interrogation. En tout cas, la justice française s'en est emparée en créant depuis 2015 ce délit d'obsolescence. C'est passible tout de même de 2 ans d'emprisonnement. Mise au rebut de manière délibérée de produits technologiques qui posent d'autres questions. Hein, quand on parle santé publique, on pense à l'éthique. Est-ce que c'est une question que vous étiez posée en réparant certaines machines, Arnaud Ferron ? Pourquoi est-ce qu'on a mis hors service cet appareil alors que finalement il pourrait encore servir ?
La question est complexe. C'est vrai que nous, c'est frustrant en tant que technicien de ne pas pouvoir réparer une machine qui pose problème. Et quand on appelle le fournisseur et qu'on nous répond gentiment, eh bien non, la machine n'est plus supportée, n'est plus exploitée, on n'a plus de pièces, on se retrouve devant le fait accompli et on n'a pas d'autre choix que de réformer nous-mêmes un appareil qui était de seconde main. Donc on sent vraiment la frustration face à un équipement qu'on peut pas dépanner, oui, qu'on peut pas réparer.
En direct de Toulouse, on vous retrouve dans les studios de France Bleu Occitanie, Philibert Hermine. Monsieur Hermine, est-ce qu'il existe certains matériels qui sont plus complexes à remettre en état que d'autres. Est-ce qu'il y a certaines technologies qui posent vraiment problème ?
Disons, concernant les machines, effectivement, la technologie change, hein, mais ce qui ne change pas, c'est la qualité de fonctionnement de la stérilisation, c'est-à-dire comment on stérilise. Mais d'une machine à une autre, bien, effectivement, la technicité n'est pas la même.
Arnaud Ferron, la question justement de cette performance, de cette solidité du matériel, elle est encore plus accrue quand on doit faire voyager du matériel et l'amener dans des structures parfois où l'acheminement de l'électricité, la question énergétique pose problème. Est-ce que justement on doit, entre guillemets, prendre du matériel plus solide ?
Oui, alors il y a des équipements qu'on appelle tropicalisés, c'est-à-dire qu'ils ont une protection vraiment pour les climats sensibles, humides. On est aussi très sélectif sur les équipements que l'on reçoit en don ou bien qu'on achète. C'est-à-dire que, par exemple, pour les équipements de don, on a banni complètement avec mon collègue les échographes, parce que ce sont déjà des équipements qu'on renouvelle pas forcément très régulièrement dans les hôpitaux. Et lorsqu'on les a chez nous, ils fonctionnent bien 2-3 mois. Ils sont testés, etc., en routine, etc., pas de souci. On les envoie et 6 mois après, il y a plus rien et ils sont pas dépannables. Ouais, parce que, comme vous l'évoquiez, à cause des problèmes électriques, des fluctuations. Donc oui, on se prémunit de tous ces problèmes en installant des onduleurs, etc., des équipements de suppléance, de lissage de courant pour que le courant soit le plus pur possible. Donc oui, on est face à des contraintes environnementales qui sont importantes. Qu'on retrouve pas dans les constructions nouvelles, comme Bamako qui est en cours de construction, comme le Sénégal qu'on a inauguré l'année dernière.
Parce de nouvelles structures hospitalières, là où les choses sont prévues en amont.
Voilà, tout à fait. Un hôpital aux normes européennes. Donc là, on a moins de soucis. Local climatisé pour les échographes, par exemple. Mais oui, on doit anticiper et pouvoir répondre à toutes les problématiques locales.
Alors, s'il y a bien un secteur qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque cette question de la performance des équipements en milieu hospitalier, c'est évidemment l'imagerie médicale, la radiologie. En ligne avec nous, professeur Philippe Soyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité de radiologie diagnostique interventionnelle de l'hôpital Cochin à Paris. Depuis que vous exercez, professeur Soyer, à quelle transformation technologique avez-vous assisté dans votre spécialité ?
Eh bien, écoutez, compte tenu de mon grand âge, j'ai connu la radiologie classique et j'ai assisté à l'émergence du scanner, puis de l'IRM. Donc j'ai connu vraiment toutes les révolutions de la radiologie depuis maintenant 30 ans. Et c'est un domaine où les progrès sont vraiment énormes.
Des matériaux avec lesquels vous travaillez au quotidien, justement, est-ce qu'on garde une sorte de regard un peu émerveillé face à cette évolution technologique ou finalement, comme on l'utilise au quotidien, on peut dire, professeur Soyer, on est un petit peu blasé ?
Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que lorsqu'on a la chance d'être dans un hôpital universitaire où même s'il y a des coupes budgétaires assez sombres, il y a toujours moyen d'avoir des équipements perfectionnés qui sont renouvelés assez régulièrement et on est, je dois dire, toujours au fait de la technique et de la technologie.
Et comment se prend justement la décision de changer un appareil au niveau hospitalier ? Est-ce que les médecins ont leur mot à dire ou est-ce que tout se fait finalement entre fournisseurs et responsables administratifs ?
Alors je crois que ça dépend un peu des établissements. Mais dans les hôpitaux universitaires, en tout cas dans celui dans lequel je travaille, le médecin est complètement associé à la décision du choix du matériel. Pour plusieurs raisons, parce que on a des contraintes cliniques qui sont bien connues des médecins et moins connues par les gestionnaires. Et donc, lorsque l'ambiance est favorable et que la coopération se fait bien, le directeur d'établissement fait tout à fait confiance au radiologue pour choisir son équipement.
Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de déterminer la durée de vie moyenne d'un appareil d'imagerie tel que ceux que vous utilisez au quotidien, professeur Soyer ? Quand vous voyez justement arriver l'une de ces merveilles qui coûte énormément cher, hein, il faut bien le dire, certains appareils dépassent largement le million d'euros, vous savez combien de temps vous allez pouvoir l'utiliser en général ?
Alors ça, c'est un peu aléatoire parce que il y a plusieurs choses qui font qu'un équipement va durer plus ou moins longtemps. Lorsqu'on est dans un hôpital universitaire, eh bien, on est confronté à plusieurs exigences. Prenons par exemple le scanner. Eh bien, il y a des progrès technologiques qui font qu'on a envie d'avoir une machine pour mieux soigner les patients. Il y a maintenant des scanners qui permettent d'étudier le corps entier, de la tête jusqu'aux pieds, en presque 3 secondes. Donc ça permet de prendre en charge des gens qui sont défaillants, qui ont fait un malaise, qui sont agités dans les meilleures conditions. Voyez, et puis il y a des nouvelles réglementations concernant l'irradiation. Donc il y a des nouvelles machines maintenant qui permettent d'avoir des images de qualité tout en irradiant très peu les patients. À titre d'exemple, les nouvelles machines permettent de faire un scanner du poumon, de voir tout le poumon, en irradiant aussi peu et même moins qu'une simple radiothorax. Donc toutes ces nouveautés font qu'on a un petit peu la pression pour changer les machines, pour essayer de mieux soigner les gens. Et puis il y a aussi les contraintes de recherche. C'est-à-dire que si vous faites de la recherche, eh bien vous êtes dans un milieu assez concurrentiel. Et pour faire de la recherche de haut niveau, eh bien il faut avoir des nouvelles machines qui permettent d'utiliser les nouvelles technologies, les nouvelles techniques. Et ça, c'est également très important et c'est aussi un critère qui est pris en compte dans la durée de vie d'une machine dans un endroit donné. Si vous avez peu de contraintes de recherche, eh bien vous allez pouvoir utiliser une machine un peu plus longtemps.
Dernière question, professeur Philippe Soyer, avant de vous rendre à vos patients. On connaît les stratégies commerciales des laboratoires pharmaceutiques. Hein. Est-ce que pour les sociétés biomédicales, ces fournisseurs d'équipements, eh bien, on assiste au même genre d'action, pour dire les choses simplement? Comment est-ce qu'on décide d'acheter? Est-ce qu'il y a une vraie concurrence ou pour un appareil bien précis, il y a une situation de quasi-monopole?
Non, pas du tout. Il y a des appels d'offres qui sont faits en relative transparence avec des experts qui se réunissent et qui sélectionnent les machines en fonction du cahier des charges, en fonction des performances des machines qui sont évaluées à la fois sur des données techniques écrites et également évaluées sur site dans des endroits où les machines sont déjà en activité. Et tout cela est fait d'une manière assez cohérente avec une adéquation entre la machine et le besoin local. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de monopole. Il y a
un choix collégial.
Oui, voilà, de façon collégiale par les médecins, les ingénieurs biomédicaux. Et ceci est fait d'une manière assez claire et assez cohérente, je dirais.
Merci infiniment, professeur Philippe Soyer, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité de radiologie diagnostique et interventionnelle de l'hôpital Cochin. À Paris, on a entendu recherche clinique, Arnaud Ferron, hein, deux enjeux bien différents. Vous, à la chaîne de l'espoir, vous vous situez à un niveau un petit peu différent avec cette, entre guillemets, exportation de produits, en apportant de la technologie à des structures souvent privées du strict minimum. Malgré tout, on essaye d'apporter le mieux technologique, même quand on va au Sud. C'est une réelle préoccupation.
Oui, tout à fait. On essaie vraiment de répondre aux besoins de chacun. On fait des fois des miracles, on est content de le faire. On a l'exemple d'un praticien qui opérait encore à la lampe frontale il y a quelques temps et on lui a dégoté, avec un petit budget qu'on a réussi à sortir, une lampe chirurgicale digne d'un hôpital français. Donc oui, on s'adapte.
Alors vous prospectez auprès des sociétés, j'imagine, des fournisseurs sans citer de marque. Est-ce que pour dans d'autres domaines industriels, Arnaud Ferron, il y a des bons et des mauvais produits?
Oui,
sans citer
oui,
de marque, hein, citer donc ça ne vous met pas
oui,
en difficulté.
Oui, bien sûr, il y a des bons et des mauvais produits. Et votre question tout à l'heure était intéressante dans le sens où est-ce qu'il y a des produits adaptés à tel ou tel pays. Oui, il y a du matériel de vraiment moins bonne qualité. Et...
Qu'est-ce qui est déterminant, par exemple, le lieu de fabrication? Est-ce qu'il y a du fabriqué en Europe qui serait plus fiable que du fabriqué ailleurs dans le monde?
Oui, et voilà, sans langue de bois, oui, ça se voit vraiment. Voilà. Quand on prend un appareil... fabriqué à un endroit A et un autre, l'appareil identique fabriqué à un point B, oui, on voit c'est palpable, hein, la différence est palpable dans la qualité des plastiques, des connecteurs, des câbles, des accessoires, etc. Oui.
On vous retrouve en ligne de Toulouse, Philibert Hermine, en studio France Bleu Occitanie. Cette question de la maintenance, on l'a compris, il y a les matériels, c'est essentiel. Il y a aussi comment savoir utiliser, remettre en état ces matériels. Est-ce que vous avez une action justement de formation sur le terrain? Vous arrivez avec votre savoir-faire. Est-ce que vous le transmettez aux équipes locales?
Bien sûr, le rôle d'une mission, bien sûr, c'est de remettre en état le circuit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les appareils, la fonctionnalité des appareils, mais aussi faire la formation pour que, après une mission, que ces appareils puissent être maintenus en bon état de marche. Donc, effectivement, pendant une mission, il y a toute une phase de formation avec le personnel technique.
Philibert Hermine, Arnaud Ferron, vous restez avec nous. On part tout de suite pour le Mali.
Priorité santé sur RFI.
Et en ligne de Bamako, on retrouve le professeur Mamadou Diarra. Bonjour.
Bonjour, madame.
Professeur Diarra, vous êtes cardiologue, directeur de l'hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg. Vous travaillez aussi avec la chaîne de l'espoir. On revient donc sur cette question du matériel médical, bien sûr. Comment est équipé aujourd'hui votre hôpital?
Notre hôpital est équipé avec du matériel que nous avons acheté, aussi avec du matériel pour recevoir en donation à partir des organisations humanitaires un peu partout à travers le monde. Donc ça crée un parc assez hétéroclite au niveau du matériel, donc complique en soi la maintenance, surtout qu'il n'y a pas de maintenancier très performant dans nos sous-régions.
Ah, tout à l'heure, on a vu avec votre confrère de l'hôpital Cochin que les décisions d'acquisition se faisaient de manière collégiale. Vous, professeur Mamadou Diarra, quels sont les critères quand vous choisissez ce matériel médical?
Moi, quand j'ai choisi le matériel médical, c'est d'abord pour répondre aux besoins locaux. C'est-à-dire que ici, on est en manque total de matériel. C'est le désert à ce niveau. Donc, chaque fois que nous avons une acquisition, l'acquisition est toujours la bienvenue. Mais il faut, si nous avions le choix, nous aurions préféré que le matériel relève à peu près de la même marque, ce qui faciliterait énormément la maintenance. Mais si un matériel est assez solide, a été testé et reste performant, je ne vois pas pourquoi nous n'importerons pas ce matériel-là, puisque le besoin sur place est énorme.
Et justement, ces besoins très importants, vous fournissez concrètement auprès de qui, professeur Mamadou Diarra?
Nous fournissons auprès de la chaîne de l'espoir, évidemment, en comptant sur leur expertise technique. Nous nous fournissons en partie avec JOS Médical, mais nous avons été très, très déçus au niveau de JOS Médical. Et nous avons aussi des donations de la Libye au temps où ce n'était pas le cas, de l'Égypte actuellement. Et dans les lots que nous recevons, il y a beaucoup de matériel que nous n'arrivons plus à utiliser. Pas parce que le matériel n'est pas de bonne qualité ou qu'il n'est pas encore en marche, mais seulement les maintenanciers sur place n'arrivent pas techniquement à les mettre en marche au niveau de nos structures.
Alors, professeur Mamadou Diarra, on l'a compris, hein, gros blocage du côté de la maintenance. Comment vous l'expliquez? Comment ces techniciens ne sont pas en mesure de reprendre ces machines, de les remettre en état? Il manque quoi? De formation ou alors
formation,
simplement les matériels sont...
au niveau de formation.
Gros problème de formation.
Au niveau de formation. Voilà, il faut que nos maintenanciers soient formés. Certainement, quand au niveau de la chaîne de l'espoir, il y a des maintenanciers déjà à la retraite qui passent par le Bamako, ils arrivent à nous donner des coups de main que nous apprécions énormément, parce que nos maintenanciers, ils sont maintenanciers peut-être pour du tout petit matériel. La médecine de pointe, telle que la circulation extracorporelle, telle que l'IRM, telle que les scanners multibarrettes, ne sont pas encore choses courantes dans nos sous-régions. Si bien que les maintenanciers n'ont presque jamais été formés à dépanner de tels appareils. Pire, on est confronté souvent à des problèmes de monopole. Si vous avez un scanner, par exemple, Hitachi, si vous avez un scanner Toshiba, il faut que le même maintenancier qui dépanne le scanner Toshiba et qui se trouve parfois dans un autre pays vienne à Bamako pour pouvoir vous dépanner.
Et ça coûte très cher.
Évidemment, le scanner est à l'arrêt et le coût de la maintenance devient exorbitant. Et donc ça, c'est des problèmes majeurs.
Tout à l'heure, vous citiez ces sources d'approvisionnement de l'étranger, d'ONG. Est-ce que vous avez l'impression que l'État joue son rôle en matière d'investissement, d'efforts financiers? Parce que c'est très important, hein, compte tenu des coûts, cet apport budgétaire, financier, c'est totalement primordial, professeur Diarra.
On a fait beaucoup de réunions. On a voulu harmoniser, regrouper les commandes pour éviter la déperdition. Mais jusqu'ici, ça n'a pas été mis en route parce que vraiment, dans nos pays, il n'y a que des priorités. Et des fois, certaines priorités arrivent à cacher d'autres. Mais je pense qu'il est temps, au niveau de nos pays, d'essayer d'harmoniser le parc au niveau matériel, d'harmoniser la maintenance, c'est-à-dire de nous regrouper de sorte que vraiment l'achat du matériel, l'entretien du matériel puisse être non seulement moins cher, mais aussi facile. Je pense que c'est ça l'avenir.
Justement, professeur Diarra, ce problème des équipements technologiques, mais aussi pour tout ce qui est matériel de base, hein, les lits, les potences de transfusion, les tensiomètres, véritable problématique régionale. Justement, est-ce que vous en parlez avec vos confrères de la sous-région?
Nous en parlons, mais il n'y a pas de regroupement pour l'instant. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à faire une coalition vraiment pour pallier à ce genre de mésaventure ou à ce genre vraiment de déficit au niveau du matériel dans nos différentes structures.
Merci beaucoup, professeur Mamadou Diarra. Je rappelle que vous êtes cardiologue, directeur de l'hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg à Bamako. Arnaud Ferron, hein, on parle de matériel de haute technicité, mais c'est bien toute la chaîne de l'équipement qui pose problème, pas simplement ces machines très coûteuses.
Non, toute la chaîne de A à Z est importante, et notamment, comme disait le professeur Diarra, qu'on connaît bien, puisqu'on est en train de construire une extension à son hôpital au Mali, à Bamako. Ce qui pose le plus problème, bien sûr, c'est la maintenance. La maintenance, c'est la formation des techniciens. On met aussi un point d'orgue à la chaîne de l'espoir à ce que les structures que l'on crée soient équipées en ressources techniques. Pour exemple, on a fait venir un technicien du Sénégal l'année dernière, qui est resté formé, enfin qu'on a formé un mois en France à travers des sociétés, des formations techniques chez les fournisseurs, etc. Et nous avons actuellement un technicien malien, donc de Bamako, qui est arrivé il y a 15 jours et qui reste encore 15 jours, qui est en partenariat avec l'hôpital d'Orléans en province. Donc voilà, on fait marcher le réseau des techniciens pour qu'il soit lui-même formé et qu'il retransfère après son savoir à ses collègues une fois de retour à Bamako.
Sur cette question clé de la maintenance, Philippe Hermine, est-ce que le fait de se rendre sur le terrain, ça change d'optique sur l'utilité de son métier, hein, métier technique en particulier, quand on travaille dans le secteur médical?
Oui, il est évident que ce qu'on découvre sur place, ça n'a rien à voir avec une intervention en métropole. Mais je pense que c'est l'expérience et la compétence du technicien sur place qui fait que il arrive à trouver des solutions. Hein, ce qui fait que il peut toujours être ennuyé avec une pièce qui fonctionne pas, déterminer la qualité de la pièce, commander, il arrive toujours à s'arranger. Et c'est le but de la mission, c'est de pouvoir mettre en fonctionnalité toutes les machines possibles pour que une mission soit réussie.
Merci beaucoup, merci messieurs, hein, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé pour parler de cette obsolescence programmée en matière de santé. On a répondu ni dans un sens ni dans l'autre. On a vu que c'était vraiment du cas par cas. Philibert Hermine, bénévole spécialiste stérilisation et hygiène au sein de la chaîne de l'espoir. Très bonne journée à Toulouse où l'on remercie encore pour leur accueil nos confrères de France Bleu Occitanie. Et merci à vous Arnaud Ferron, responsable biomédical de l'association La Chaîne de l'Espoir, de nous avoir guidés dans ces méandres de la technologie médicale. C'est le moment de retrouver Stéphane Besançon. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Aujourd'hui, on va parler du lait de soja. Précisément, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux lait de soja?
Alors, en France, comme dans de nombreux pays, on ne peut pas réellement employer le terme de lait de soja, car ce terme est réservé au lait qui est produit par les mammifères, comme le lait de vache ou comme le lait de chèvre. Donc, on devra parler de boisson de soja ou de jus de soja. Et cette boisson, elle vient d'une légumineuse, donc le soja, comme son nom l'indique, qui peut être obtenue en broyant du coup la légumineuse et de la laisser tremper ensuite dans de l'eau et chauffer, et qu'on va obtenir une sorte de filtrat. C'est ce filtrat qui va permettre de produire ce jus un peu laiteux. Ça peut être préparé très facilement à la maison et ça peut être aussi acheté dans le commerce de manière déjà transformée.
Alors, quelles sont les caractéristiques nutritionnelles de ce jus de soja ?
Alors, si on compare au lait de vache, par exemple, qui est un peu le lait de référence, on s'aperçoit qu'au niveau macronutriments, on va avoir à peu près la même chose en lipides, c'est-à-dire les graisses, en glucides, les sucres, et aussi en protéines. Par contre, il y aura des différences importantes dans ce qu'on va appeler les micronutriments, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux. On a aussi un profil de graisse qui va être différent. Donc, contrairement au lait de vache, il contient pas de calcium, il est moins riche en sodium, mais par contre, il est plus riche en fer et il contient pas de cholestérol. Alors maintenant, ça, c'est quelque chose qui commence à être publié de plus en plus. Il y a aussi un composé intéressant dans le soja, qui est l'isoflavone, qui va avoir des propriétés protectrices pour certaines formes de cancer, notamment la prostate et le sein. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que de plus en plus dans le commerce maintenant, le lait de soja, enfin le jus de soja, du coup transformé, va être supplémenté en certaines vitamines et minéraux, comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine B12, mais aussi en calcium et en zinc.
Alors, il y a cette question très importante. Est-ce qu'on peut utiliser ce jus de soja, lait de soja, pour nourrir un petit bébé?
Alors, il faut d'abord rappeler, c'est important à l'antenne de le redire souvent, la recommandation de l'OMS, qui est d'essayer de respecter le plus strictement possible, on va dire, quand c'est possible, la recommandation de l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois, ce lait maternel va avoir quand même un vrai avantage qui va être d'avoir des propriétés protectrices pour l'enfant, à la fois sur le système immunitaire pour protéger de certaines maladies, mais aussi pour constituer la flore et prévenir certaines maladies, notamment les maladies chroniques, à l'âge adulte. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment de maintenir ça au maximum. Et il faut pas oublier aussi qu'une autre chose qui est importante avec ce lait maternel, c'est que dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau potable, ça permet d'éviter toutes les maladies liées à de l'eau qui peuvent être souillées.
Stéphane Besançon, alors quelle consommation est-ce que vous recommandez pour cette boisson au soja ?
Alors, en tenant compte des avantages nutritionnels qu'on a vus précédemment avec l'allaitement maternel, il est clair qu'il n'est pas recommandé du tout de remplacer ce lait maternel par du jus ou des boissons de soja. Il faut absolument rester sur cet allaitement maternel, sauf s'il y a en cas de problématique, on va dire psychologique ou de problématique sur l'allaitement, il faut remplacer à ce moment-là par des banques de lait ou du lait fait pour ça, mais pas du tout par du lait de soja et ou du jus de soja. Par contre, après, une fois que la diversification a été faite et à l'âge adulte, ça peut être un très très bon aliment pour venir remplacer d'autres aliments protéinés notamment, qu'on va retrouver. Alors pour des gens par exemple qui veulent baisser leur quantité de viande, mais garder un apport en protéines très intéressant, ou alors pour les végétariens par exemple, là ça peut devenir un aliment très intéressant pour compléter bien sûr une alimentation équilibrée.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, je rappelle que vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Et demain, nous allons parler de la Journée mondiale contre la drogue, une émission que nous avons enregistrée la semaine dernière à Dakar.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.